14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors ça pourrait être un peu tu veux ou tu veux pas aujourd'hui, puisqu'on va parler de la capacité à dire oui, à dire non, parce que c'est vrai quand une histoire d'amour démarre, très souvent la sexualité elle est présente hein, évidemment, et la question du consentement elle ne se pose absolument pas. Et puis on s'aime, donc il n'est pas question de dire non. D'ailleurs, c'est les femmes en particulier qui sont capables de bien des sacrifices par amour. Mais à force de dire oui pour faire plaisir, on risque de se perdre, de perdre son désir, de perdre son amour. Et on verra pourquoi on a tant de mal à se respecter et à poser des limites, notamment au début d'une relation. Et tout ça, c'est en compagnie de Jean-Benoît Dumontex, qui est avec nous et qui est psychanalyste et qui travaille aussi beaucoup avec les couples. Vous comprendrez mieux aussi l'importance de se respecter, parce que si on veut maintenir une harmonie dans la relation, il faut se respecter, parce que sinon les rancœurs vont s'accumuler jusqu'à parfois ne plus avoir envie d'avoir des relations sexuelles. On évoquera évidemment aussi la question du consentement, ce fameux consentement qui a été mis au goût du jour depuis le fameux phénomène MeToo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accepter un rapport sexuel alors que vous n'en aviez pas envie? Alors si vous me dites « mais non, pas du tout », j'aurais peut-être du mal à vous croire, même si vous êtes un homme. Je suis persuadée qu'on a tous, plus ou moins, eu un jour envie d'accepter de dire oui pour faire plaisir. Et puis je vous invite donc à venir témoigner pour nous expliquer pourquoi vous avez dit oui alors que vous n'aviez pas spécialement envie. Et ce que vous avez ressenti en ayant dit oui. Et pour ça, bien sûr, notre numéro c'est le 0826 300 300 Jean-Benoît Dumontex. Est-ce que vous aviez vraiment envie de venir faire cette émission? Vous avez dit oui, vraiment, de tout votre cœur?
Oui, oui, consentement total.
Bon, eh ben, tout va bien alors, on va s'entendre. Oui, je crois que cette capacité à dire oui ou à dire non, elle est dépendante des individus et elle est dépendante aussi de la relation qu'on a vis-à-vis de l'autre, non?
Oui, c'est l'autre en général, et particulièrement dans les couples, lorsque l'amour est en jeu. Parce qu'il y a toujours cette idée-là, quand on dit non, que potentiellement on va perdre l'autre, qu'on va perdre son amour ou qu'on va perdre la relation. Ce qui peut effectivement mener certaines personnes, hommes ou femmes, vous l'avez dit, hein, ça touche les deux, à ne pas dire non alors qu'ils pensent non, qu'ils veulent non, mais dire oui, notamment pour un acte sexuel.
Donc c'est déjà la peur de perdre l'autre, c'est-à-dire ne pas avoir assez confiance dans notre capacité à le garder, même si on n'est pas 100% à sa merci.
Alors c'est oui, ne pas avoir confiance dans la relation déjà, et puis c'est une confiance en soi, c'est-à-dire ne pas se sentir assez bien ou assez valorisé ou valorisant pour garder le lien. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de rapport à soi aussi dans cette difficulté à dire non. Effectivement, ça a un lien avec l'autre, mais ça a aussi un lien avec soi-même, ce qu'on est en capacité de faire, quelle valeur on se donne, voilà. Et du coup, quelle confiance est-ce qu'on peut se faire et faire à l'autre?
Parce que finalement, le oui et le non, ça parle du respect de soi, du respect de l'autre. Si on ne se respecte pas suffisamment, on ne sait pas dire non. C'est un peu ça que
c'est ça, c'est effectivement. Voilà, c'est ça. Si soi-même, on ne connaît pas où son corps, où ses limites, où tout ça à la fois, c'est très difficile de faire respecter ces choses-là par l'autre. Voilà. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que notre espace est respecté? Quand est-ce qu'il ne l'est plus? Voilà, ça renvoie quand même beaucoup à la connaissance de soi et à la confiance en soi par rapport à l'autre en général. Hein.
Et puis ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'on va dire, on va pas savoir dire non. Prenons même un exemple tout simple, hein, une amie qui vous demande souvent de garder son enfant parce qu'elle travaille et que nous on ait un petit peu plus de temps, etc. Donc on dit oui, et puis à un moment donné, à force de dire oui alors qu'on n'avait pas le temps ou qu'on n'avait pas envie, ou etc., tout d'un coup on va dire un non tellement agressif que ça va être mal reçu. Et c'est là aussi où il faut comprendre que si on dit oui en pensant non, on va finir par dire non de manière très agressive, non?
Oui, c'est exactement ça. Oui, non, oui. Non, c'est tout à fait vrai. C'est, si on accumule des non
qu'on ne dit pas. Des oui qui veulent dire non.
Voilà, c'est ça. Eh bien, quand on dit non, c'est très mal perçu, c'est incompréhensible pour l'autre parce que jusque-là, on a dit oui et là, on dit non de manière agressive. Alors que soi, on sait très bien que depuis le départ, on ne veut pas. Hein, donc, effectivement, c'est
Est-ce
beaucoup
qu'on le sait
mieux de.
vraiment? Est-ce qu'on le sait vraiment au
Alors,
fond?
c'est toujours la question. Quand on a commencé à faire un travail sur soi et quand on connaît un petit peu le siège des émotions et disons quand est-ce qu'on est ouvert avec l'autre et quand est-ce qu'on est d'accord et quand est-ce qu'on l'est pas, on a les capacités si on s'écoute bien de savoir quand on ne veut pas et donc de dire non. Mais effectivement, tout le monde n'est pas dans cette catégorie-là. Tout le monde ne sait pas toujours gérer. Et puis la situation parfois nous prend au dépourvu, donc on dit plutôt oui parce que je sais pas, c'est plus pratique pour tout le monde, mais pas forcément pour soi. Et on ne découvre qu'après coup que bah non, on s'est mis dans un sale pétrin et qu'on n'avait pas envie du tout de ça, mais c'est trop tard.
Bien sûr. Et alors sur la question particulièrement sexuelle, c'est encore plus complexe évidemment parce que je suis une femme, donc je peux me permettre de le dire. Il y a peu d'hommes qui pourraient se permettre de dire ça. C'est que nous les femmes, parfois, bon, on n'a pas spécialement envie, et puis on va dire oui, et puis finalement ça va nous apporter du plaisir, voire même un orgasme, et on va être contente d'avoir dit oui. Et puis parfois, on va être un petit peu déçu. C'est pas aussi simple que ça pour en ce qui concerne la sexualité. C'est pour ça qu'on en parlera dans la deuxième heure avec Jean-Claude Kaufmann qui vient de sortir un livre où il parle beaucoup du consentement. Moi, je trouve que la question du consentement en ce qui concerne la sexualité, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est très très complexe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a vraiment cette notion de plaisir qui est liée à la situation et voilà, on peut, comme vous le disiez tout à l'heure, prendre du plaisir même si on n'a pas vraiment envie et qu'on se force, on peut quand même y arriver ou ça peut être une très bonne surprise. Bon, ça peut être l'inverse évidemment, hein. Mais c'est en termes de
Oui, on peut
sexualité,
avoir
c'est
beaucoup
très
de désir
compliqué.
et puis finalement avoir un rapport qui soit complètement désagréable.
Voilà,
L'inverse
exactement,
peut, bien sûr, bien
exactement.
sûr.
Oui. Donc, effectivement, quand la sexualité se joint à cette histoire de consentement, c'est toujours très très complexe. Puis c'est vraiment du cas par cas et bon, c'est terrain miné presque parce que c'est très compliqué de savoir un peu ce qui se passe dans la tête des personnes dans ce moment-là. Et parfois, le rapport sexuel peut faire suite à une grosse engueulade. Voyez, donc on peut ne pas avoir envie et finalement ça permet quelque chose dans le couple. Enfin, il y a vraiment le contexte aussi qui joue énormément. Pour cette histoire de consentement.
Donc moi, je ne sais pas quel est votre conseil, mais le conseil que j'ai envie de donner aux femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'on sait, même si on en parle peu, qu'il y a des hommes qui parfois disent oui pour un rapport sexuel alors qu'ils n'en ont absolument pas envie. Moi, je dirais toujours, il faut après coup, donc si on a dit oui, même si on n'a pas de plaisir d'ailleurs, se poser la question, est-ce qu'au fond, le fait d'avoir fait plaisir, même si je n'ai pas eu de plaisir personnellement, ça me va bien? Ou pas. Et si ça me va bien, on a eu raison de dire oui. Si ça ne me va pas, à ce moment-là, il faut peut-être se poser la question, non pas de soi, mais de soi à l'autre, c'est-à-dire de la relation.
Oui, tout à fait. Et si possible, y mettre des mots. Alors ça, c'est toujours la grande difficulté de dire après coup, ben voilà, tu vois, là j'ai accepté, mais je sentais que j'en avais pas vraiment envie, et du coup, pour moi, ça s'est pas très bien passé. Est-ce qu'on peut-être discuter de ça? Est-ce qu'on peut-être établir un code? C'est-à-dire que lorsque je dis non, tu respectes ça? Ou quand tu sens que je suis hésitant ou hésitante, bah, on se pose 5 minutes avant de faire quoi que ce soit. Bon, voilà. Après, c'est le dialogue au sein du couple, hein.
Ça, le dialogue sur la sexualité au sein du couple, Jean-Benoît Dumontex, c'est pas
C'est
simple, hein?
compliqué.
C'est pas
Non,
simple.
c'est très
Oui.
compliqué.
Ouais,
Très.
parce que si on ne sait pas dire non, en général, on ne sait pas communiquer sur la sexualité, sur ce qu'on n'a pas aimé, sur ce qui nous a dérangé, ce qui nous a gêné.
Oui, non, mais c'est certain que c'est d'une grande complexité, hein, vraiment, au sein du couple et la sexualité. Enfin, alors, voilà, il y a deux choses. Il y a une sexualité consentie, pas forcément au sein d'un couple, et puis la sexualité au sein du couple, qui est encore autre chose. Ça rajoute, disons, encore un niveau de complexité, parce que là-dedans, il y a les sentiments, il y a voilà, une vie commune, il y a un contexte, voilà, c'est.
Et puis, il y a la différence entre les hommes et les femmes, et moi, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio. C'est très difficile, voire impossible pour une femme de commencer un flirt poussé, peut-être même un début de rapport sexuel, et puis tout d'un coup, de ne plus avoir envie et de dire non. C'est très difficile, et ça va être très difficile pour l'homme d'entendre ce non sans devenir agressif, non ? Enfin, franchement, je sais que c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais c'est quand même une réalité de la différence entre la sexualité masculine et féminine, non ?
Oui, il y a une grande différence, et effectivement, ça, mais que ça soit, j'ai envie de dire, entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, c'est toujours la complexité, hein. L'autre, effectivement, dans un flirt un peu poussé, vous dites, a l'air d'accepter, et puis ça s'arrête à un moment donné, évidemment, l'autre ne comprend pas
alors
ce qui se
passe. Alors
l'autre
est complètement excité et complètement prêt.
C'est ça.
Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment, Alors c'est facile quand les êtres humains sont à l'aise et sont en relation avec leur corps et sont capables d'être réceptifs à l'autre. Mais ça c'est quand même la minorité des gens. Hein.
C'est ça. C'est assez rare. Vous avez raison de le souligner. Et c'est dommage parce que c'est sans doute quelque chose qui manque dans notre société. C'est le rapport au corps et le fait de se connaître. De connaître ses ressentis, de connaître les signes avant-coureurs de quelque chose qui n'est pas encore monté au cerveau, donc qui n'est pas encore verbalisé. Voilà, ça sont des choses qu'on devrait apprendre, apprendre comme on apprend l'anglais, les maths, le français. Voilà, c'est très important pour la vie, ça, de le savoir.
Et alors moi, je me permettrais de parler de moi parce que je pense que ça va aider beaucoup de femmes. Oui, ça m'est arrivé de conclure un rapport sexuel juste pour avoir la paix ou pour parce que finalement, je sentais bien que c'était parti, si je puis dire. Après coup, bon, je m'en fous, hein, j'allais dire un de plus, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas forcément si simple pour toutes les femmes, donc peut-être qu'à ce moment-là, il est nécessaire de pouvoir parler à quelqu'un qui va la comprendre. Est-ce qu'elle se sent honteuse ? Est-ce qu'elle se sent coupable ? Est-ce qu'elle a l'impression de ne pas s'être respectée ? Est-ce qu'elle est dans la haine des hommes ? Enfin, et là, à ce moment-là, on va évacuer des émotions qui sont négatives et qui peuvent devenir parasites pour des relations futures avec d'autres hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça peut mettre l'empreinte négative sur le rapport à l'autre, effectivement. Mais vous avez raison de le dire, je crois que tout le monde, moi y compris, on va mettre les choses sur la table, tout le monde a, à un moment donné, eu une relation dont il n'avait pas envie. Et l'a fait quand même, et voilà, est allé jusqu'au bout pour diverses raisons, et ça laisse un drôle de goût, effectivement, sans jeu de mots, ça laisse quelque chose d'un peu amer, d'un peu sale, d'un peu malaisant, voilà, on n'est pas content de soi, on a une mauvaise image de soi, et parfois on met du temps à s'en remettre, hein, ça peut entamer durablement le rapport qu'on a à soi, l'estime qu'on a de soi, l'image qu'on a de soi.
Voilà. Et si on peut en parler à quelqu'un qui est apte à comprendre ce qu'on va raconter et qui va pas nous dire, bah, t'avais qu'à dire non, parce que c'est non.
Ah bah.
Si on n'a pas dit non, c'est qu'on n'a pas pensé à dire non, qu'on n'a pas su dire non.
Bah oui.
Donc c'est là où peut-être je trouve notre émission aujourd'hui, Jean-Benoît Dumontex va ouvrir quelque chose qui aujourd'hui est assez difficile à ouvrir, mais je crois que c'est important qu'on donne la parole et qu'on entende, et qu'on écoute et qu'on puisse en parler avec vous.
Oui, absolument. J'entends ça assez souvent et voilà, je suis tout à fait ouvert à ce genre de témoignages et j'espère vraiment qu'aujourd'hui on va avoir des témoignages de cet ordre-là qui vont ouvrir des portes ou en tout cas permettre aux auditeurs et aux auditrices de se reconnaître et peut-être d'apprendre quelque chose sur ces situations-là.
Ouais. Parce que la question du consentement, elle est tellement floue qu'il est peut-être important d'élargir, si je puis dire, le débat. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Frédéric qui est avec nous.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
En compagnie de Jean-Benoît Dumontex, psychanalyste, psychothérapeute, spécialiste des addictions sexuelles, sujet que nous abordions hier avec Laurent Carilla, on va continuer à avancer sur la capacité à dire oui, à dire non, et peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur l'enfance, hein, parce que c'est à ce moment-là, j'imagine, Jean-Benoît Dumontex. Mais d'abord, on va donner la parole à Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Brigitte.
Bonjour. Alors, vous aviez du mal à dire non.
Voilà, en fait, pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai beaucoup avancé, hein, à 46 ans, mais je pense passer toute ma vie à dire oui pour faire plaisir à mes parents, faire plaisir à mes amis, faire plaisir à mon compagnon. Et le jour, la seule fois où j'ai dit non, c'est la seule fois où on a vraiment abusé de moi. Donc, de par cette expérience-là, j'ai fait un grand travail sur moi-même en me disant, au final, pourquoi t'as toujours eu ce besoin de dire oui à ci, à cela, que ça soit dans n'importe quel domaine.
Vous nous avez dit, Frédéric, que la seule fois où j'ai dit non, on a abusé de moi, c'est qui ce
mot ? Oui, c'est ça. C'est, on va dire que c'est une relation que je ne voulais pas, où j'ai vraiment émis un non. Et malgré mon nom...
Donc c'était un homme, c'était pas votre compagnon, hein, c'était un
non.
autre homme.
Voilà, exactement.
D'accord. Et malgré mon nom... Ça a été une prise de conscience.
Oui, parce qu'en fait, ça a été une grosse prise de conscience, parce qu'effectivement, ça a été un choc pour moi, bien évidemment. Et puis surtout, ça n'a jamais été reconnu, étant donné qu'il n'y avait pas eu de violence physique. Et donc, je me suis encore sentie encore une fois abusée dans ma vie, entre guillemets, hein, psychologiquement dans tous les sens.
Non, mais ce que je trouve intéressant, Frédéric, excusez-moi, je le souligne parce que ça va aider ceux qui nous écoutent, et je sais que si vous témoignez tous dans cette émission, c'est aussi pour aider les autres. C'est qu'il a fallu un moment où réellement on abuse de vous. Que vous ayez dit non clairement, pour que vous compreniez à quel point, de toute façon, d'une certaine manière, vous aviez été un petit peu, je dis bien un petit peu, mais un petit peu abusé depuis tellement d'années.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
C'est intéressant, hein.
Ouais. C'est bon, ça a été un choc très violent, hein, puisque bon, on n'est pas reconnu non plus dans cette histoire-là. Mais bon, en tout cas, je dirais que de ce moment-là, j'ai perdu pédale, ça c'est sûr, pendant une certaine période. Et surtout, j'ai voulu comprendre...
Non, mais vous n'avez pas été reconnue par la société, mais vous,
société,
vous êtes reconnue.
Mais moi, je me suis reconnue.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Exactement.
Et c'est ça qui est important. C'est peut-être plus important encore, me semble-t-il.
Exactement.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Benoît Dumontex, de ce que je...
Oui, c'est très, très étonnant, mais c'est assez souvent, d'ailleurs, que ça arrive. C'est que lorsqu'on dépasse vraiment les limites, alors qu'on avait décidé que ces limites ne seraient pas dépassées, qu'on se rend compte qu'effectivement il y a un problème et que c'est pas possible que ça recommence. Voilà.
C'est
mais après, à quel coût ? Enfin, je veux dire, combien de fois avez-vous dit oui en pensant non jusqu'à ce jour-là ? Bon, donc c'est tout un cheminement quand même.
C'est ça. C'est tout un cheminement et puis à un moment donné, on a une prise de conscience, on se dit bah non, je ne le veux pas, je veux pas de cet acte, je veux pas de cette relation. Et en fait, c'est comme si la personne, votre interlocuteur, en fait, lui, tout ce que vous dites, puis il y a quand même cette mentalité aujourd'hui dans cette société où une femme, elle dit non, mais souvent, il vous répond, mais si, en fait, ça voulait dire oui. Donc, il y a quand même cette mentalité qui est assez horrible et qui traverse toutes les générations. Donc, j'ai dû faire face à cela. Et en faisant face à cela, j'ai fait un travail sur moi-même qui a été très douloureux. J'en parle beaucoup avec émotion encore aujourd'hui, mais parce que j'ai aussi compris que ça venait de l'enfance, c'était cette estime de soi que je n'avais pas forcément, que ce que je recherchais au final avec des oui, que ça soit pour un service, que ça soit pour faire plaisir aux gens dans n'importe quel domaine, c'était pour avoir de l'amour au final. Ce que je recherchais, c'était l'approbation et l'amour des gens qui m'entouraient. Donc donc le fait d'avoir pris cette grosse claque à travers ce non, où pour une fois je disais non, je ne veux pas, et que les choses se soient quand même produites, je me suis dit qu'il fallait qu'il y avait quelque chose à travailler, que au fond de moi il n'y avait pas ce oui, il était voilà, il transpirait depuis ma naissance, et qu'il fallait que je reprenne confiance en moi, en me disant que j'avais le droit de dire que ça me plaisait, ça me plaisait pas. et de dire non, et stop.
Et là, vous venez de dire quelque chose d'essentiel, que vous aviez le droit. Et ça, c'est vraiment, on va appuyer là-dessus, Jean-Benoît Dumontex,
oui.
C'est souvent les parents hein, qui n'autorisent pas suffisamment les enfants à avoir le droit de dire non.
Oui,
des
absolument. Tout bêtes,
Oui, allez-y,
oui alors que le, si on réfléchit bien, quand on observe les petits-enfants, l'une des premières choses qu'ils disent, c'est non. C'est l'âge du non, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu autour de soi. Les enfants ont cette capacité à dire non très tôt, c'est assez naturel de dire non. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'ils construisent leur subjectivité, c'est-à-dire leur espace. L'espace au sein duquel ils vont être eux-mêmes. C'est le début de la construction, c'est le non. Mais effectivement, le non de la part des enfants, déjà pour commencer, est souvent très mal perçu et plutôt combattu par les adultes ou par les parents, pour être encore plus clair. Ce qui fait que quand on est enfant et qu'on a été comme ça rabroué, ne dis pas non, ou bien dont tu n'as pas le droit, c'est oui, c'est comme ça, c'est pour ton bien. Alors ça, c'est la phrase absolument horrible, c'est pour ton bien. Et bien du coup, on ne sait plus dire non et on a l'impression qu'il faut dire oui à tout. Pour être aimé, vous l'avez très bien dit, et pour avoir ce que j'appelle moi le miroir positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de soi une image très positive, c'est le cas de le dire, et on pense qu'en disant oui, en faisant plaisir aux autres, ce qu'ils vont nous renvoyer va nous construire cette image, hein, que ça va comme ça nous redonner de l'être, ça va nous redonner une épaisseur et quelque chose de plaisant, mais pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
C'est exactement ce que j'ai vécu. Hein. C'est de la reconnaissance au travers de mon oui. C'est voilà toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous savez dire oui et non facilement.
Voilà.
C'est
beaucoup plus clair. Après, la grande difficulté a été de savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas au final.
C'est exactement ça. Bravo, Frédéric.
Voilà.
Parce que c'est compliqué pour une femme. On n'a pas une érection, on n'en a pas. Enfin, tu me dirais, c'est compliqué pour les hommes aussi. Hein. Mais c'est compliqué parce que faut apprendre à se. Ben, vous avez encore du temps pour vous découvrir.
Oui, mais à 46 ans, j'espère bien que ça va avancer très vite quand même, quoi. Parce que effectivement, j'ai eu des très belles choses aussi.
Ça va avancer même beaucoup plus vite que vous l'imaginez, parce que vous avez fait le premier pas, et c'est ce premier pas qui est important, c'est accepter de dire non. Merci beaucoup de votre témoignage, en tout cas, Frédéric. On va se retrouver dans un instant, on va revenir justement sur nos blessures d'enfance avec Chabi Langlois. Et oui, il y en a aussi à dire là-dessus.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Jean-Benoît Dumontex, nous accueillons Chabi Langlois, qui est spécialiste de nos blessures d'enfance, psychothérapeute et auteur de ce livre « Psychatrice, bien vivre avec ses blessures d'enfance » qui est sorti aux éditions Guy Trédaniel. Alors c'est Sylvie qui va nous raconter son enfance difficile, douloureuse, et on va essayer de voir plus clair. Jean-Benoît, vous pouvez évidemment également réagir. Bonjour Sylvie.
Bonjour Brigitte, bonjour Chabi Langlois.
Bonjour.
Voilà,
bonjour.
Oui.
Voilà, racontez-nous. Qu'est-ce que vous diriez de votre enfance ?
Je voulais parler des conséquences de mon enfance. J'entends souvent dire que à partir du moment où on est adulte, on n'est plus enfant, on n'a plus à se soucier. Il faut réagir et que on n'est plus une enfant. Comment ?
C'est faux.
Ben, c'est ce que je constate, hein, parce que là, j'ai...
C'est complètement faux.
J'ai la soixantaine...
Pourquoi c'est faux, Chabi Langlois, alors ?
Parce que le moi enfant, il reste à vie en nous. Le moi enfant se forme jusqu'à 4 ou 5 ans et reste présent. On l'oublie, c'est tout. On ne va pas interroger notre moi enfant alors qu'il est là, il est présent. Il est toujours présent.
D'accord, mais normalement, le moi adulte a dû se construire et doit être là pour aider... et prendre la main du moi enfant de manière à ce que ce moi enfant soit sécurisé, rassuré.
Et non, justement. Quand il y a blessure, il y a blocage de l'évolution du moi adulte.
Oui, je sais bien, mais j'ai dit normalement. J'ai pas dit que c'était toujours le cas. J'ai dit normalement, ça devrait.
Normalement,
normalement, si on s'est construit en tant qu'adulte, notre enfant intérieur, il est toujours là, et tant mieux, c'est lui qui nous permet de nous émerveiller, nous enthousiasmer, voire oui. même d'avoir des idéaux. Enfin, je suis d'accord qu'il faut que le moi enfant, il puisse vibrer, mais c'est pas lui qui prend les commandes de notre vie. Jean-Benoît Dumontex, vous êtes d'accord avec moi, je suis sûr.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais je suis d'accord aussi que lorsque
malheureusement, oui.
Voilà, lorsqu'il y a des blocages dans l'évolution, après on vit toute sa vie avec ces manques-là dans le moi enfant, et ça a des répercussions effectivement sur le moi adulte.
Oui.
Oui, merci, voilà. Donc, racontez-nous.
Ce que je voulais dire, c'est que je ne me pose pas en victime. Mais j'ai constaté tout au long de ma vie, pourtant j'ai vu des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, de toutes sortes. Mais ce que j'ai vécu, je ne laisse une trace en moi. Je n'avais déjà pas le droit de dire non, hein, parce que un non, c'était même impensable. Je l'ai jamais. Enfin, je l'ai peut-être dit pour mes premiers mots, mais même j'ai vu un film que mon père a tourné une fois. Je marchais à peine, donc je devais avoir 13-14 mois. Et j'adorais écouter la musique. Donc, je pouvais, je prenais un tabouret et j'allais écouter le poste radio. Et mon père m'a pris en film ce jour-là. Mais alors, faut voir mon inquiétude. Je regardais, j'avais peur.
Vous étiez un enfant effrayé. C'est ça que vous voyez sur les images que vous avez vues de ce film.
Je pense. Oui, voilà. J'étais un enfant dans l'inquiétude.
C'est intéressant ce que vous venez de nous dire, Sylvie, parce que vous dites « je pense ». Mais est-ce que, au fond, vous avez travaillé sur les émotions ressenti de votre petite fille intérieure, justement?
Eh bien, écoutez,
parce que j'entends un discours assez intellectualisé, et je crois que le travail que doit faire quelqu'un qui a été martyrisé comme vous semblez l'avoir été, c'est de je sais pas, hein, moi je suis pas psy, mais
c'est de retrouver le ressenti,
ce que j'entends, c'est ça, hein, oui,
c'est de retrouver le ressenti de toutes ces épreuves, et ça c'est le moi enfant, qui est blessé. C'est lui qui porte la blessure.
Ben, j'ai fait un travail là-dessus. Et
mais est-ce que vous avez fait un travail sur vos émotions, justement, sur ce que votre petite fille intérieure ressent?
Oui, j'ai fait un travail là-dessus. Mais le bienfait a duré, je sais pas, peut-être un mois, et puis les réflexes reviennent.
Et c'est quoi les réflexes? Qu'est-ce que vous diriez? Quels sont vos réflexes?
Ne pas pouvoir dire non. Ne pas pouvoir dire non.
Et pourquoi vous ne pouvez pas dire non, Sylvie?
Et bien parce que je ne me l'autorise pas.
Pourquoi vous ne l'autorisez pas?
Eh bien parce que...
Vous pouvez nous aider, Jean-Benoît. Hein.
Oui, non, mais j'écoute en même temps.
Je ne sais pas encore.
C'est cette réponse-là qu'il faut trouver.
Oui, cette peur de dire non est souvent liée à la blessure du rejet. Hein. Dans la blessure du rejet, l'enfant apprend à éviter de dire non pour être toujours en accord avec les adultes, c'est-à-dire répondre aux besoins des adultes.
En accord ou pour éviter les trempes ou les... peut-être que Sylvie a subi des choses, de la maltraitance cette peur est ancrée en vous. Enfin, j'en sais rien encore une fois. Hein. J'essaye de vous aider à ce que vous donniez vos réponses, parce que c'est vos réponses qui peuvent nous aider à comprendre.
La violence, elle était physique, mais elle était verbale surtout. Moi, ce qui me bloque encore aujourd'hui, c'est les mots, et l'interdiction complète de fréquenter d'avoir des amis, d'avoir de la famille. Donc j'ai pas connu ni mes oncles, mes tantes, mes grands-pères, mes grands-mères, mes cousins. On était enfermés. On est trois enfants, hein. On était enfermés au sein de cette famille.
Vous aviez pas de relation avec le monde extérieur, c'est ça?
Non, à part à l'école, mais à l'école, on apprenait.
Vous avez un peu de la phobie aujourd'hui du monde extérieur?
Non. Non.
D'accord. Et vos frères et sœurs, enfin les autres là de la fratrie, oui. Ils ont les mêmes difficultés que vous?
Ils ont des difficultés. La difficulté à parler, parce qu'on n'avait pas le droit de parler. Si on s'exprimait à table, on recevait. Et la pire, c'était moi, parce que j'étais au milieu et vraiment pas désirée. Donc, je payais pour les autres, bien souvent. Hein.
Mais il y a une chose intéressante que vous avez dit tout à l'heure et qui mérite d'être creusée, c'est que vous avez dit que vous aviez fait un premier travail, mais que les réflexes sont revenus tout de suite. Ce que vous appelez les réflexes, moi j'appelle ça les panoplies, c'est-à-dire c'est les comportements de protection par rapport aux blessures que vous avez. Et c'est normal qu'ils reviennent, ils sont là pour vous protéger, c'est vous qui les avez construits, qui les avez fabriqués, ces comportements de protection. Ils sont intéressants, et c'est par là que vous allez pouvoir commencer à vous libérer, en les regardant et en les rattachant aux blessures. Oui. Le premier travail qui est très important et que vous avez commencé à faire, c'est le travail avec le moi-enfant, c'est-à-dire donner au moi-enfant la reconnaissance de ses blessures, la reconnaissance qu'il a été maltraité. Parce que ça, c'est souvent complètement oublié. Et le moi-enfant, tant qu'il n'a pas cette reconnaissance, il bloque. Un petit peu comme un gamin qui fait la tête, il bloque. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que l'évolution de l'être humain, tant qu'il est blessé, et n'est pas complète, parce que justement, il y a un blocage au niveau du moi-enfant, et le moi adulte ne peut pas se manifester. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont ces obstacles, quelles sont ces attitudes qui vous bloquent. Il y en a une, c'est ne pas pouvoir dire non.
Et puis, qu'est-ce que vous appelez vos réflexes, en fait?
D'écarter mes émotions. Voilà, je n'ai pas le droit d'avoir des émotions.
Voilà.
J'ai beaucoup de mal à pleurer.
Oui, à vous exprimer émotionnellement. Pleurer et même rire. Hein.
Et là, parce que vous êtes quand même en train de nous parler, vous parlez de vous, de votre intimité, de vous parler. C'est difficile pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez là, justement, en ce moment, présent?
Ah ben là, j'ai une boule dans la gorge.
C'est ça.
Voilà. Mais
vous sentez bien qu'on va vous écouter et qu'on va pas vous agresser. Vous avez confiance quand même.
Oui.
Mais malgré tout, ça passe pas.
Non, ça passe pas. À un moment donné, je dis mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça. Je suis stupide. Mais je l'ai fait parce que la situation. Me remettait dans le rôle de la petite fille qui doit obéir.
Oui.
Et je m'en veux, je m'en veux terriblement.
Ce qui est terrible, Sylvie, parce qu'on l'entend bien, hein. Vous savez, ça me fait penser à une sorte de château fort dans lequel vous vous êtes enfermé et il y a autour tout un fossé immense, infranchissable, et on essaye, nous, tous les trois là de vous aider à le franchir, et on sent que c'est vraiment pas possible pour vous. Ça vous parle,
exactement,
cette image?
Oui, tout à fait. Et dans les trois frères et sœurs que nous sommes, nous avons ce point commun, alors que nous sommes totalement différents, mais ce point commun de ne pas parler. Ouais. Quand on est dans un rassemblement, il faudrait bien trois verres d'alcool pour commencer à s'exprimer. Voilà.
Comme ça, on risque rien, c'est ça?
Voilà. Oui, mais même mourir, moi, c'est, c'était ma peur quand j'étais, enfin ma peur, non, mais j'avais la conscience que je pouvais mourir, mais mes parents, ils me battaient tellement que, voilà, et je faisais le ménage à quatre pattes, ramassais chaque poil d'animal sur les tapis, et surtout, ce qui m'a fait beaucoup souffrir, c'est de ne pas avoir le droit de parler et de ne pas avoir le droit d'avoir quelqu'un qui aurait compensé, qui serait devenu pour moi le parent que j'aurais voulu
de
avoir.
De ne pas avoir quelqu'un qui est tendre avec vous et quelqu'un qui vous aime, tout simplement.
Oui, mais ça, il y en avait autour de moi, sûrement. Mais oui, comme ça, pas le droit de les rencontrer.
Voilà, vous ne donnez pas le droit. Vous ne vous donnez plus le droit de parler. Vous attendez qu'on vous le donne. Et comme on ne vous l'a jamais donné...
Ça me fait peur, moi, de parler en public.
Eh bien sûr.
Eh oui.
Et c'est ces peurs-là qu'il faut regarder tranquillement en vous plaçant, si je puis dire, dans votre moi enfant, de façon à calmer cette partie-là en vous, à lui expliquer qu'il n'y a pas de danger, qu'au contraire, c'est bien de parler.
Alors, excusez-moi, Chabi Langlois, on va laisser Sylvie parce que malheureusement, c'est aussi le propos de cette émission. On est obligé par moment de passer à autre chose. Moi, Sylvie, il y a un conseil que j'ai envie de vous donner. Est-ce que vous avez déjà fait une thérapie de groupe ?
Non.
Moi, je pense que peut-être être une solution pour vous. Parce que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont comme vous, terriblement blessées, qui ont peur. Et peut-être qu'en groupe, vous allez vous reconnaître un tout petit peu et que peut-être ça va commencer à s'ouvrir. Je ne sais pas, c'est une proposition que je vous fais.
Parce qu'en face à face,
on l'entend bien. Vous pouvez parler, bien sûr, mais vous restez dans quelque chose qui est très, 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 très superficiel. Alors, pour arriver à enlever toutes ces écorces et arriver à votre moi intime, ça a pris d'ailleurs, puisque vous n'y avez. Tandis qu'en thérapie de groupe, peut-être que ça peut bousculer un peu et il peut se passer des choses. En tout cas, c'est le conseil que je vous donnerais, moi, personnellement.
Oui, ça peut vous débloquer.
Jean-Benoît Dumontex, pour conclure.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un très bon conseil parce que le face-à-face peut laisser dans une position infantile par rapport aux parents. Alors que lorsqu'on est en groupe, on peut trouver une place qui n'est pas celle-là. Et effectivement, voir d'autres qui ressentent les mêmes choses, ont les mêmes difficultés, ça peut permettre dans une dynamique de groupe d'essayer de sortir tous ensemble de quelque chose. Donc c'est une très bonne idée que d'aller rencontrer des pères, des gens qui ont souffert eux aussi et qui ont cette difficulté à être. Parce que si je peux bien résumer votre témoignage, c'est que c'est une difficulté à être, puisque être, ça commence par parler, et que même ça, c'est très compliqué. Donc ne lâchez surtout pas le travail que vous êtes en train de faire, il est essentiel. Et voilà, allez voir des groupes et n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes dans une détresse, vraiment.
Merci beaucoup Sylvie et bon courage. Merci Chabi Langlois, je rappelle le titre de votre livre « Psychiatrice bien vivre avec nos blessures d'enfance » aux éditions Guy Trédaniel. On se quitte un court instant et puis on se retrouve tout de suite, bien sûr. N'hésitez pas, vous aussi, est-ce que vous savez dire oui, est-ce que vous savez dire non, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Jean-Benoît Dumontex qui est avec nous, psychanalyste, spécialiste des addictions sexuelles. Et je rappelle ce dernier livre, Sex Addict, quand le sexe devient une drogue dure. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio, est-ce que vous savez dire oui, est-ce que vous savez dire non, 0826 300 300. Valérie est avec nous, bonjour Valérie.
Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Dumontex, je suis ravie de pouvoir participer à votre émission, c'est toujours un plaisir très constructif de vous écouter, de pouvoir y participer surtout, et effectivement je voulais témoigner sur le sujet d'aujourd'hui, le fameux non dans le couple. Alors moi je vous donne ma simple position, je trouve que il est essentiel de savoir dire non, mais pas n'importe quel non, et pas en fait n'importe comment. J'aime pas spécialement le oui ou le non, parce que pour moi, je trouve que ça ferme les portes. Je préfère le « pourquoi pas mais », parce que du coup, ça permet d'ouvrir des créneaux de communication. Et c'est plus intéressant, et d'ailleurs c'est plus excitant, je trouve. Mais enfin bon, enfin c'est personnel. Mais ça me permet aussi, enfin ça permet aussi de faire un mix des positions de chacun et finalement de mieux se conjuguer. Et j'aime beaucoup l'idée de la conjugaison. Moi, je trouve que quand on est deux, on doit se conjuguer, on doit fonctionner ensemble. Donc le nom pour moi devrait vraiment s'employer pour la préservation et le respect de son être uniquement. Mais pour le reste, je préfère l'idée de l'échange et des décisions communes. Je pense que pour amener l'autre justement sur le terrain, nos accords, le nom est trop catégorique. Je préfère la subtilité, le dialogue, savoir écouter, s'exprimer dans le respect le plus profond. Alors c'est vrai, parfois, on fait souvent l'oubli de soi-même quand on est amoureux, on a envie de dire oui à l'autre et de lui faire plaisir, mais on doit le vivre comme une démarche, comme finalement une sorte de, je vais pas dire cadeau, mais finalement c'est un peu ça, puisque finalement un plaisir pour soi-même également, parce que voir l'être heureux, ça doit nous apporter également du bonheur, donc... pour moi, c'est important. Alors après, savoir exprimer ses positions. Bah,
vous savez quand même, Valérie, que vous avez un discours de quelqu'un qui sait parfaitement poser ses limites. Hein. Je ne m'inquiète absolument pas sur votre capacité à dire non, à dire oui.
Bah, j'essaye de prendre en compte les envies de l'être aimé. J'essaye de, mais je veux pas faire l'oubli de moi-même. Je trouve que c'est essentiel de pas s'oublier dans une relation.
C'est juste milieu entre. Oui, oui. C'est toute la difficulté d'ailleurs.
Voilà.
On a souvent tendance à soit trop facilement laisser passer l'autre avant soi, ou au contraire, une sorte d'attitude boomerang, de se dire maintenant ça suffit, je me respecte. Et c'est ça, Jean-Benoît de Montec, cette difficulté à être dans du lien. Hein.
C'est la difficulté, mais comme un peu partout, c'est de positionner le curseur. Voilà, pour à la fois rester en lien avec l'autre et en même temps se respecter. Donc chacun va trouver son endroit. Parfois c'est à 4, 5, parfois c'est à 10. Enfin bon, voilà, mais c'est toute la difficulté.
Et c'est vrai que c'est important.
Valérie, votre discours laisse à penser que vous l'avez bien placé, le curseur.
Bah, en tout cas, je le vis très bien. C'est déjà une bonne chose. Je le vis très bien, mais garder aussi ces positions, mais sans les imposer. C'est là, d'ailleurs, la difficulté. Mais j'ai pas envie de m'oublier dans une relation, comme j'ai pas envie non plus de formater l'autre dans une relation et de le plier. Je pense que c'est une conjugaison, en fait. J'aime beaucoup... j'aime beaucoup conjuguer, en fait. Mais finalement, ça va bien au-delà d'un simple oui ou d'un simple non, parce que je pense qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple aussi qui se respecte et qui échange. Et les frustrations de l'un et de l'autre devraient s'exprimer naturellement. Alors, c'est sûr que c'est pas simple, forcément, mais de s'approcher le plus souvent de cette vision un peu idéaliste et d'essayer de parler et surtout de prendre peut-être le temps de la réflexion. Bon, moi-même, la première, je réagis des fois trop à chaud, alors que je devrais aussi réagir à froid et j'essaye tous les jours.
Mais tout simplement, Valérie, parce que très souvent, quand on nous dit non, on a l'impression que c'est à soi qu'on dit non, alors que c'est à ce qu'on a demandé qu'on dit non. Vous voyez, et c'est là toute la difficulté. Il y a tellement d'affect quand on est dans une relation amoureuse que quelqu'un qui, si on dit tiens, ce soir j'aimerais bien aller au cinéma, je sais bien que c'est pas possible en ce moment, mais prenons cet exemple-là. Si l'autre nous répond non, c'est tout simplement qu'il a pas envie d'aller au cinéma. C'est pas qu'il a pas envie d'aller avec nous au cinéma. Et c'est ça, c'est cette différence-là qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on est tout de suite blessé dans notre affect.
C'est surtout le non, en fait. Je crois qu'on devrait changer. Le non, ça ferme les portes. On entend trop souvent dire non. Déjà, dans notre propre éducation, en étant enfant, non, tu dois pas toucher à ça, non, tu dois pas faire ceci. Finalement, ça amène des frustrations. Oui. Et je trouve que ça serait intéressant, finalement, de changer de non, finalement. De le réinventer et de l'exprimer différemment. Et peut-être que ça ouvrirait peut-être... des portes justement à un dialogue et à une communication qui serait beaucoup plus constructive.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit ?
Mais oui, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le côté pourquoi pas. Oui mais. Donc ça ouvre, ça laisse les portes ouvertes, je trouve. Le non catégorique me plaît pas en tout cas. Il faut savoir dire non, mais. Voilà, dans différentes mesures.
Eh bien, on va y réfléchir et puis on va continuer après les infos, bien sûr. Merci Valérie, en tout cas, de votre témoignage qui est intéressant, hein, parce qu'on voit bien que ce n'est pas aussi simple que ça de dire non, de dire oui. Merci Valérie. Je vous propose la petite devinette du jour, Jean-Benoît Dumontex. Écoutez bien,
alors,
quelle est la différence entre les bières qu'on boit, donc, et les femmes? Quelle est la différence entre les bières et les femmes? Vous réfléchissez et vous me donnez la réponse après les infos. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Jean-Benoît Dumontex, nous évoquons aujourd'hui le oui, le non, ce qui n'est pas si simple, on l'a compris avec le témoignage de Valérie il y a un instant. Si vous avez une manière de dire non qui est très efficace, on est preneur, hein, venez nous la donner sur Sud Radio 0826 300 300. On évoquera également le consentement avec Jean-Claude Kaufmann qui nous rejoindra un peu plus tard après 15h30. Mais d'abord, Jean-Benoît Dumontex, j'ai vu que vous aviez beaucoup, beaucoup réfléchi et je suis sûre que vous allez me donner la réponse de ma devinette. Quelle est la différence entre les bières et les femmes? C'est une question de chaud et froid, en fait.
Ah, une question de chaud et froid. Ah, j'avais pas ça en tête. Alors, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat.
Vous aviez quoi comme réponse?
J'avais une histoire de pack de 6.
Ah bon? Alors, oui. C'est-à-dire,
donnez-moi votre réponse, je vous donnerai la mienne après.
D'accord. Bon, en fait, c'est une question de chaud et froid, parce que les bières, elles sont excellentes froides, et les femmes, elles sont excellentes chaudes. Donc voilà, la différence est de taille, hein, puisque il faut pas se tromper, il faut pas mettre une femme froide avec une bière chaude, il faut une bière froide avec une femme chaude, voilà. Et alors, votre réponse, Jean-Benoît?
Alors moi, c'était un petit peu plus grivois. C'était quelque chose que j'avais entendu qui disait que pour une bière, deux doigts suffisent pour un pack de 6. Voilà.
D'accord. C'est un peu plus grivois, mais c'est drôle aussi. Carina, bonjour.
Oui, bonjour. Ravie de vous avoir au téléphone.
Merci. Merci, Carina.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Ouais. Excusez-moi, j'avais oublié votre invité, je ne sais pas.
Jean-Benoît Dumontex.
Jean-Benoît, ravi de vous avoir au téléphone.
Eh bien, de même, alors, que se passe-t-il pour vous?
Ce qui se passe, c'est que, voilà, on m'a demandé ce que je pensais du oui et du non. Et bon, du haut de ma large expérience, puisque j'ai atteint la soixantaine, je peux dire qu'effectivement, le non a été très, très difficile à mettre en place. Et que pendant longtemps, effectivement, par peur de déplaire ou par besoin justement de plaire, le oui était systématique et malgré moi. Donc ça, c'était vraiment un problème. Et après, un jour, on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à me respecter et juste savoir apprendre à dire non. Mais souvent, le non a une connotation très négative et on a justement cette crainte de déplaire ou cette crainte en disant, peut-être que, surtout quand il s'agit de sexualité, j'ai fait peut-être un peu de zèle, j'ai fait un peu trop de charme. Et quand on arrive au moment fatidique, on n'ose pas dire non parce qu'on a l'impression de passer pour je ne sais trop quoi. Mais ça, c'est complètement faux, puisque en fait, c'est juste soi qu'on ne respecte pas. Et donc, en vieillissant, un jour, j'ai appris. Ah oui, j'ai appris à dire non, j'ai appris à exprimer ce que j'avais besoin. Et on m'a dit que la personne au monde la plus importante pour moi, c'était moi. Ça a été très difficile à intégrer parce qu'on l'assimile toujours à une sorte de forme d'égoïsme, mais c'est pas ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était simplement me respecter. Et à partir du moment où je respecte aussi les autres. Je le dis de façon gentille, cordiale. Si c'est pas suffisamment entendu, je le dis de façon beaucoup plus ferme. Mais j'ai appris à dire non.
De toute façon, si ce n'est pas entendu, c'est que quelque part l'autre en face ne vous respecte pas.
Oui, certes.
Donc qu'est-ce qu'on a à faire d'amis ou d'amants ou de... Enfin, je veux dire, si on est avec quelqu'un qui ne nous respecte pas, de toute façon, à plus ou moins long terme, la relation est en danger.
Tout à fait,
c'est
mais c'est délicat.
C'est d'ailleurs sans doute ce qui a dû se passer avec vous.
C'est délicat quand on est très amoureux, par exemple, parce qu'on veut systématiquement faire plaisir, on veut aller dans le sens... En fait, on voudrait correspondre à l'image que l'autre a de nous. Mais c'est pas nous. Des fois, c'est pas nous. C'est juste pas nous. Donc, et concernant les pratiques sexuelles, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que c'est vrai qu'on a chacun son parcours, on a chacun ses inhibitions, on a chacun ses façons de penser. Et bon, alors des fois, on ne veut pas passer pour quelqu'un de trop tiède ou de trop timoré, ou on se dit, oh, quand même, il va te prendre pour quoi. Voilà, c'est toujours par rapport... le problème, c'est l'image qu'on veut donner de soi-même et qui est pas forcément, qui correspond pas forcément à ce qu'on est soi-même.
Mmh. Et ça, vous acceptiez qu'on vous dise non ?
Oui, maintenant je l'accepte tout à fait, oui, bien sûr. Mais ça, le non, je l'ai accepté très souvent. Le non, je l'acceptais beaucoup. Ça me faisait mal, mais je l'acceptais. C'est moi qui n'arrivais pas à le dire. Mais je pense que ça vient beaucoup aussi de l'éducation. Et je vous dis, on a l'impression dans notre société que si on prend ses besoins en priorité, on est quelqu'un d'égoïste. Alors que c'est pas ça. Penser à soi... c'est aussi aller mieux dans sa peau, être mieux dans sa tête, et du coup être
Je crois, Carina, on va revenir sur ce que disait Jean-Benoît Dumontex dans la première heure, et qui parlait de l'enfant, qui, très jeune, apprend à dire non. Et puis, très vite, le parent qui a le pouvoir, c'est une question d'horizontalité, de verticalité, pardon. Donc le parent, de toute façon, a le pouvoir, et l'enfant va être obligé de céder et de ne pas, quelque part, de faire ce que le parent veut. Hein. Et je pense que ce qui nous permet, à un moment donné, de savoir dire non, c'est parce qu'on devient adulte. Tant qu'on n'est pas, on n'a pas passé le cap de l'enfant, et on voit bien, plus on a été un enfant sécurisé, aimé, et en confiance, plus vite, en tant qu'adulte, on saura dire non. Je crois que c'est ça. Moi, je crois que si on comprend bien ça, chacun qui écoute cette émission aujourd'hui peut faire ce petit travail pour apprendre à plus facilement dire non. C'est juste d'être adulte. C'est pas une question d'égoïsme.
Tout à fait, mais je pense que justement... Dans mon cas, la fleur du père a été énorme. C'était un père tyrannique, très présent, très très dur. Et les autres hommes sont quand même juste des pis-allés du père au fur et à mesure de la vie. Et donc, chaque fois que j'avais ce genre de problème, peut-être effectivement que j'avais pas réussi justement à faire cette scission et à arrêter le petit enfant.
Vous parlez du père, mais est-ce que votre mère savait dire non à votre père ?
Pas du tout.
Et ben voilà. Donc oui, c'est une projection aussi de ce que vous pensiez qu'une femme devait être.
Tout à fait. Vous touchez du doigt, exactement. C'est tout à fait ça.
Ah. Oui, c'est le système normal pour vous, ça, à la base.
Exactement.
Donc c'est très difficile après. Voilà, c'est très difficile de s'en détacher. Tout à l'heure.
Pas normal, le système culturel d'une époque. Hein.
Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais j'entends normal dans le sens que c'est la norme de ce qu'on peut voir à la maison. Et on se bâtit beaucoup sur ce qu'on a vu à la maison, sur les premiers temps.
Italien, en plus. C'est... Père italien, du
voilà.
Sud.
Voilà. Voilà. Donc, c'est pas du tout normal au sens de... Voilà. Donc, moi, j'aime pas du tout le mot normal, mais j'entends que, voilà, c'est usuel, on va dire, c'est quotidien, c'est ce qu'on voit. Et on peut après se dire que le couple, c'est ça, par exemple. Que la place de l'homme ou de la femme, c'est ça. Et quand vous parliez tout à l'heure d'être adulte, ce qui veut dire plein de choses et en même temps qui ne dit pas grand-chose, c'est pas avoir 18 ans, par exemple. Être adulte, je pense que c'est justement pouvoir être en capacité de questionner les parents, questionner le système parental, ne plus être d'accord avec ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu, et donc inventer quelque chose d'autre ou mettre en place autre chose d'autre dans notre vie. Je crois qu'on est vraiment adulte quand on a fait le tour du système de ce qu'on a vu enfant et donc du système parental et qu'on est au clair avec ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on referait ou ce qu'on ne referait pas, ce dont on a souffert ou pas avec les parents.
Oui. Oui, mais c'est d'autant plus difficile que bon, moi j'ai vu une mère qui me soumise toute ma vie et je me suis dit que je ne serais pas soumise. Ça, c'est ce que je me suis dit dès le départ et toute jeune.
Oui,
mais je me rends bien compte que dans ma vie, je l'ai été très souvent. Il y a vraiment, travail, hein. Ça se fait pas, c'est pas parce qu'on dit, moi, je veux jamais ressembler à ma mère, je veux jamais être une femme soumise comme elle l'a été. N'empêche que je vois bien que dans mon parcours de vie avec les hommes, hein, parce que j'ai eu quand même plusieurs relations, j'ai été très, très soumise pendant longtemps, jusqu'au moment où il y a eu un clash et je me suis dit stop, là, il faut que je me respecte, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Mais il y a eu un travail avec un psychologue, etc., pour en arriver à ça. C'était pas facile.
Mais c'est normal. C'est normal, pour reprendre le terme de que vous avez pris, Jean-Benoît. C'est normal parce que vous vous êtes construite en miroir à votre mère, hein, en tant que femme.
Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, l'essentiel, c'est que maintenant, je sais, je dis non.
Ah, ben c'est ça l'essentiel, oui.
Bien sûr. Et la vie est beaucoup plus belle.
Je crois que c'est un travail que l'on a tous à faire. Hein. Je pense que c'est plus facile à 50 ans de dire non qu'à 18 ans. Ça me paraît évident. Ou alors quand on dit non à 18 ans, on le dit de manière très agressive, une sorte de rébellion contre le monde entier.
Non, mais ce qui m'a étonné beaucoup, moi, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est que quand j'ai commencé à dire non, ben, je me suis aperçue que c'est pas pour ça que les gens ne m'aimaient plus. Et j'avais vraiment cette peur panique que si je dise non, tout d'un coup, on ne m'aime plus. C'était largement ancré dans ma tête.
Mais rassurez-vous, c'est ce que beaucoup de personnes inconsciemment ont en tête. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à dire non. Mais c'est parce qu'on dit non que justement, on va nous respecter. Et puis parce que quand on sait dire non, l'autre, quand on lui dit oui, il sait que c'est un vrai oui. Et donc, ça crée une vraie relation avec une vraie compréhension et c'est beaucoup plus... Enfin, moi, ça me semble beaucoup plus important d'être avec quelqu'un. On sait qu'il va pouvoir dire non, donc on ose lui demander ce qu'on a envie de lui demander sans avoir peur de éventuellement et qu'il se sente obligé de dire oui. Voyez à quel point, finalement, sans savoir dire oui, sans savoir dire non, on crée des liens qui sont pleins de malentendus.
C'est vrai. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai. D'où l'importance de faire ce travail et de comprendre cette chose-là, oui. C'est vrai. Et c'est
pour ça que je suis encore enfin arrivée dans en phase de gens qui acceptent, qui acceptent qu'on leur dise non sans qu'ils se sentent agressés, blessés, rejetés. Oui. C'est pas simple non plus.
Mais je pense qu'il faut expliquer, c'est toujours pareil. C'est aussi la communication qui est la base de d'une meilleure entente. Parce qu'un non, point final... c'est un nom un peu léger, c'est un nom qu'on peut pas, je veux dire, je pense qu'il faut de temps en temps expliciter, en fait, de temps en temps, non, systématiquement. Il faut expliquer son nom. Voilà, non, mais voilà pourquoi. Et je pense que ça peut mieux s'entendre.
Je vous ai proposé tout à l'heure, dans quelques minutes, un love conseil, justement, sur comment savoir dire non. Ce sera après Philippe Hoffmann, qu'on va retrouver tout de suite, et après le love conseil, c'est quelques pistes pour pouvoir savoir dire non. Parce que j'avais bien pensé qu'avec une émission comme celle-là, aujourd'hui, on aurait besoin de quelques petits conseils. Jean-Benoît Dumontex, d'ailleurs, pendant la pause, si vous avez quelques idées, notez-les et vous nous les donnerez dans le Love Conseil. Comment aider ceux qui nous écoutent à savoir dire non. Merci beaucoup, en tout cas, Karina. Vous savez que c'est le nom qu'a une de mes juments, Karina.
Ah, oh, bah, fantastique. C'est un joli prénom. Vous savez ce que ça veut dire en italien?
Ça veut dire
petit. Oui, non, c'est petit mignon. Karina, c'est Karina. Ah, ça veut dire petit mignon.
Alors, elle est plutôt un peu massive. Hein. C'est pas vraiment une petite jument mignonne,
aussi,
mais elle est.
Par contre, mais en tout cas, elle est
Ah ben, elle est très mignonne, elle est très gentille. Et puis, ben, quand je la montrerai demain, je penserai à vous.
Eh oui, vous lui ferez beau cadeau de ma part. J'adore les chevaux. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Et puis, on va pas quitter les animaux. Vous savez ce qu'on va faire, Jean-Benoît Dumontex? On va aller voir le loup.
On va aller voir le loup.
Avec Philippe Hoffmann dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News.
Oh, c'est facile. C'est magnifique, n'empêche. Bon, Jean-Benoît Dumontex, nous accueillons le grand loup, le grand méchant loup, Philippe Hoffmann. Bonjour, Philippe.
Ouais,
parce que vous êtes très grand, hein.
Ouais, très grand. Bon, méchant, pas tellement.
Non, ça c'est vrai, vous n'êtes pas très méchant. Vous êtes psychozoologue, hein, c'est comme ça que maintenant on vous appelle. Voilà. Vous avez changé.
Et aujourd'hui, je vais vous parler du loup.
Oh, super. J'adore les loups, moi. Je sais pas.
Il y a plein de gens qui sont fascinés par cet animal. Hein.
Ouais. Vous les aimez, les loups, Jean-Benoît?
Oui, moi j'aime beaucoup aussi. J'ai une grande fascination, effectivement, pour les loups. Il y a ce danger, en même temps, ça a l'air tellement mignon. On se demande vraiment quelle est la vérité là, de cet animal.
Alors, ça a toujours été un animal fascinant. Hein. On le retrouve dans la mythologie, dans les contes, mais on le retrouve aussi dans nos corps d'enfants, Il a une allure de gros chien, vous savez, 40 kilos, avec un pelage soyeux, mais des mâchoires puissantes. Et alors, ça renvoie à des fantasmes.
Ils ont la même origine, d'ailleurs, non
les Oui, mais les chiens se sont séparés il y a 200 000 ans. Et donc, ils ont suivi quand même des comportements très, très différents. Hein. Bon, et puis en plus, le loup a été décimé hein, complètement, hein, parce que bon, c'est un prédateur redoutable. Hein, il a pratiquement pas d'ennemis en dehors de l'homme et du tigre quand c'est en Asie. Et il a des immenses territoires de chasse, mais enfin avec l'agriculture, s'il n'y a pas trop de proies sauvages, ben il s'attaque aux troupeaux domestiques et puis très rarement à des hommes. Donc on l'a décimé partout et même au XVIIe siècle, il en restait quasiment plus en Europe. Hein. Donc on l'a réintroduit dans les parcs naturels et là, ils vivent à peu près 5-6 ans et ils se reproduisent. C'est de ça que je vais vous parler. Alors, il y a une chose que je dois vous dire, c'est que contrairement à ce qu'on croit, le loup ne vit pas en meute. Il vit plutôt en famille. C'est de petites familles, d'ailleurs, de 6 à 10 membres. Hein. C'est bon, il peut y avoir des familles regroupées avec jusqu'à 40 membres, mais c'est assez rare. Et bien sûr, le père et la mère dominent la famille. Alors, on les appelait par le passé les parents alpha, vous savez, comme on dit des mâles alpha, qui décident de tout, qui mangent avant tout le monde, qui voient exactement ce qu'on doit faire. Mais contrairement à l'idée aristocratique des liens du sang, on sait désormais que chaque petit louveteau peut devenir un mâle alpha. Donc en fait, l'important c'est de devenir le protecteur d'une famille et d'un territoire. Alors les couples de loups aussi, ils ont une particularité, et ça c'est formidable chez les mammifères, c'est très très rare, ils sont monogames et ultra fidèles. Ils peuvent rester toute leur vie ensemble, jusqu'à 15 ans en captivité, sauf si la mort ou la fuite soumise d'un mâle les sépare. Donc dans ce cas-là, la louve elle peut s'unir avec quelqu'un d'autre. Mais en général, ils restent ensemble et ils sont vraiment très 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 collés. Donc quand ils sont matures, vers 2-3 ans, les ados, ils fricotent ensemble, mais comme on n'est pas chez les chiens, vous savez, chez les chiens, on peut faire n'importe quoi entre frères et sœurs. Mais là, il n'y a pas question de la consanguinité. Hein. On en reste strictement au flirt. Et puis,
d'accord, parfois, vous voulez dire que les louveteaux entre eux, même quand ils ont dépassé l'âge de la puberté, ne vont pas copuler ensemble?
Non. Et en plus, il va y avoir une chose un peu particulière, c'est que la soumission des louveteaux, c'est pour ça qu'on a parlé des mâles alpha et des femelles alpha, la soumission va faire que ça va inhiber leurs hormones sexuelles. C'est d'accord. Incroyable.
Donc ils respectent le père et...
Ah oui, même biologiquement, ils le respectent. Ah oui, ouais, pas tout de suite. Ouais. Mais en fait, bon, ça vient. Hein. Alors, surtout à partir du moment où la femelle, la mère, là, commence à avoir son estrus en milieu de l'hiver. Là, elle n'a qu'une période de chaleur par an. Et quelques jours avant, elle devient très agressive. Envers les filles en particulier et toutes celles qui rôdent hein, parce qu'il y en a aussi qui rôdent autour et à ce moment-là tout le monde se soumet on n'a plus du tout de poussée hormonale les jeunes frères excités ils se calment aussi même parfois ils deviennent gays un petit moment ils se sodomisent pour passer leurs envies de copuler et d'hétérosexualité. Et puis maman, elle se met à vivre son estrus très bien, elle urine partout, elle laisse une trace odorante hyper excitante. Alors tous les mâles du coin rappliquent, parce qu'ils la repèrent facilement. Hein. Et de son côté, le mâle, lui, il est très heureux, mais il est inquiet, parce qu'il y a des rivaux qui traînent. Hein. Donc il va falloir qu'il se fasse respecter. Mais il y a certains loups solitaires qui sont des rivaux coriaces, avec qui il faut se battre parfois à mort. Hein. Si d'ailleurs il gagne, il fera fuir le futur père, et lui, c'est lui qui deviendra le chef incontesté. C'est la dure loi du ring. Parfois, pendant les joutes et les longues poursuites, il y a aussi des loups malins, qu'on appelle les loups Casanova, qu'on profite pour saillir les louves, qui acceptent, hein, et qui s'éclipsent vite. Voilà, c'est particulier, c'est une race
donc
de loups.
Donc c'est des vraies salopes, les louves, quoi.
Ouais, un peu. Alors, une fois débarrassé des rivaux, quand même, le futur chef de famille, il sera de plus en plus tendre et insistant avec sa belle loupe.
Il va lui faire... Je vous signale quand même, Philippe Hoffmann, qu'il y a 5 minutes, vous nous disiez qu'ils étaient fidèles. Et puis là, on découvre
oui,
quand même
ils...
que la
non,
femelle...
Non, ils sont très fidèles. Ils sont très fidèles, mais surtout le mâle.
N'est-ce pas?
Voilà. Et puis, c'est une fois que la famille est bien formée et que le mâle est très fort, que la fidélité est sans faille, quoi. Bon, d'accord. Et puis alors là, ils vont se faire des léchages sur le museau, les oreilles, ils vont se rouler des pelles, ils vont se frotter, ils posent délicatement leurs pattes et leur museau sur le dos, ils dorment très près l'un de l'autre et ils hurlent ensemble la nuit. Histoire de bien signifier que leur unique union sera vraiment celle-ci et pas une autre. Alors, il y a aussi une autre chose assez rare dans le monde animal. Ils vont s'éclipser et ils vont chercher un coin d'intimité pour copuler. Alors bon, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils sont devenus l'attraction sexy du groupe et que les jeunes voudraient bien participer aux ébats, alors il faut qu'ils se planquent. Mais ça peut être comme ça aussi chez les humains. Hein. Alors la louve odorante...
Oui, on peut s'isoler aussi, c'est vrai.
Ouais, voilà. La louve odorante, elle se laisse grimper par son loup au gland très gonflé. Et il prend son temps, hein, jusqu'à 30 minutes. Il ne fait aucun mouvement brutaux, il éjacule plusieurs fois. Et une fois qu'il a terminé, il regarde bien s'il n'y a aucun rival ni voyeur qui traîne autour. Et puis, il va s'y remettre plusieurs fois par jour pendant toute la durée de l'ovulation, pendant 10-15 jours, quoi. À la fin de la période, tout va s'apaiser, la louve va redevenir...
Enfin, il a raison d'en profiter parce qu'il n'y a qu'une fois par an, hein, si j'ai bien compris.
Voilà, une fois par an pendant 14 jours, il y va. Hein. Et ensuite, toute la famille va aller aménager la tanière. Dans la famille loup, le mâle, il est très très tendre avec sa femelle, joueur avec les petits et... il ira même chercher
oui,
à manger pour tout le monde.
Il dévore pas ses petits comme d'autres espèces, en fait.
Exactement,
pas d'infanticide. Combien de temps avant la mise à bas?
Alors, il faut à peu près 2 mois. Il y aura 5 ou 6 louveteaux.
Comme les chiens, donc.
Voilà, de 500 grammes qui vont naître sourds, aveugles, et qui vont se développer en 3 semaines. En 3 mois, ils deviendront 30 fois plus lourds et il y aura des petits mâles qui vont se battre pour savoir qui est le plus fort, parce que vous savez, faut chez les sextuplés, les hiérarchies, il faut les établir. Et puis, vers 5-6 mois, en automne, chacun est à sa place et apte à suivre les parents pour aller à la chasse. Et quelques années après, c'est reparti. Les jeunes loups vont s'en aller de la meute pour aller en fonder d'autres ailleurs.
Voilà,
c'est une belle histoire, mais là, dans cette histoire, vous remarquerez une chose, c'est que le père doit vraiment être exceptionnel pour être à la fois un mari fidèle, mais aussi un défenseur incroyable.
Avoir l'autorité nécessaire pour mettre tout le monde au pas. Merci
exactement.
Beaucoup, Philippe Hoffmann.
Voilà.
Merci à vous. On se vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres histoires d'animaux. On se retrouve, nous, dans un instant avec ce Love Conseil. Comment apprendre à dire non? Et puis, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On aura Jean-Claude Kaufmann aussi qui nous a rejoint.
Brigitte Lay, Sud Radio, le Love Conseil.
Jean-Benoît Dumontex est avec nous. Alors, dire non, c'est pas si simple, c'est vrai. Et ça, je crois qu'on l'a entendu depuis 14 heures. Je crois qu'on est tous d'accord. Je voudrais juste rappeler une chose très essentielle. Dire non, c'est dire oui à soi-même. Et ça, c'est peut-être déjà une première chose à comprendre. C'est parce qu'on sait se dire oui à soi-même qu'on va dire non à l'autre, hein, Jean-Benoît Dumontex. Ça paraît évident, mais peut-être que ce serait bien de se le répéter pour les personnes qui ne savent pas dire non.
Oui, oui, absolument, c'est tout à fait juste. N'oublions pas aussi cette phrase formidable de Jane Fonda. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça il y a quelques mois. Jane Fonda, féministe quand même, hein, qui a dit pour toutes les jeunes femmes, les actrices, lors de tous ces scandales qui ont secoué l'Amérique et le monde, qui a dit « Non est une phrase complète ». Et c'est assez vrai.
Oui, vous voulez dire que ça ne nécessite pas des explications. Alors là, vous allez complètement à l'encontre de mon Love Conseil, parce que justement, je vais donner plusieurs possibilités de dire non sans juste dire non. Bon, je crois que la première chose que je conseillerais, c'est que quand vous allez dire non, respirez profondément avant de dire non, de manière à le dire d'une manière apaisée. Parce que si vous dites un non sans avoir pris le temps d'être réellement vous, enfin dans votre corps, le non va peut-être sortir d'une manière qui ne sera pas très, très juste, qui ne sera pas très crédible. Donc vous respirez profondément et vous dites non et vous regardez l'autre de manière à ce qu'il puisse s'exprimer, parce que souvent quand on dit non à quelqu'un, eh bien il a envie de peut-être d'insister, de dire que ça le blesse, enfin je veux dire, et le laisser s'exprimer, c'est une manière de dire un non qui reste ouvert. Donc ça, c'est un deuxième conseil que je donne. Je pense que vous serez assez d'accord avec ça, Jean-Benoît.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on dit non, parfois on a tendance à ne pas regarder l'autre. Vous avez raison d'insister sur le regard. C'est important de garder ce contact-là pour que l'autre sache que la discussion n'est pas terminée et que quelque chose est possible après ce non.
Voilà. Alors après, on peut dire des choses du genre « Écoute, ça me ferait plaisir, mais non, c'est pas le moment, pas maintenant, peut-être demain. » ou donner un non avec une explication, quelque chose qui nuance ce non. C'est quand même toujours... il faut pas inventer n'importe quoi, mais ça nuance le non et c'est donc moins brutal. Ça, c'est une possibilité qui est quand même assez... qui sera plus facile pour ceux qui sont plus à l'aise avec le non, évidemment. Hein, si on n'est pas à l'aise avec le non, on aura du mal à être clair dans une explication. Ensuite, je voulais dire aussi qu'on peut proposer autre chose. On peut dire non, ça j'ai pas spécialement envie d'un rapport sexuel là maintenant, mais si plutôt on allait prendre un apéritif au clair de lune. Enfin, vous voyez, dire non, mais proposer quelque chose qui montre quand même qu'il y a du lien. Ça me paraît aussi une belle manière de dire non. Vous êtes toujours d'accord?
Oui, bon, tout à fait.
Je continue. Et puis, autre chose aussi qui me paraît bien, c'est de dire non avec un geste. Je parlais tout à l'heure du regard, mais on peut aussi dire non, par exemple, notamment quand c'est une demande sexuelle, dire non, mais avoir un geste tendre vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire, parce que c'est pas que les femmes qui ont besoin de dire non. Et à ce moment-là, c'est pareil, le non, il n'est pas contre l'autre, puisqu'il y a quand même un lien, un contact charnel qui permet de nuancer le non. Et c'est puis ça. Dernière possibilité avec laquelle vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord, Jean-Benoît Dumontex, mais je la trouve aussi assez drôle et intéressante. On peut dire « Ok, je ne dis pas non, mais j'avais envie de dire non, mais je ne dis pas non, mais en échange, tu me donnes ça ». C'est une manière peut-être aussi un peu manipulatrice, mais pourquoi pas, non ?
Oui, c'est une manière de négocier, on pourrait dire.
Pourquoi n'est-ce pas ? On va dire ça, on va négocier. Est-ce que vous avez d'autres idées, moi ? J'en ai, oui, il y en a d'autres, hein, bien sûr.
Non, moi j'avais l'idée que j'avais, c'était effectivement ce non détourné, c'est-à-dire c'est pas un non frontal, c'est une manière de signifier non à l'autre, et vous l'avez très bien dit, hein, c'est j'ai pas vraiment envie, est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose à la place, ou bien bon là, aujourd'hui je suis pas tout à fait d'accord, on fait ça demain, voilà, donc soit on déplace dans le temps, soit on essaie de contourner le non frontal. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec le non, qui peut être quand même un peu compliqué. Et ne jamais oublier, mais ça vous l'avez déjà dit, que le non n'est pas non à l'autre, c'est non à la situation dans le contexte où les choses se présentent. Voilà. Et donc, effectivement, quand on reçoit un non, il ne faut pas le recevoir personnellement sur soi. C'est pas non à soi, c'est non à ce qui est en train de se passer et qui inclut les deux. Hein, voilà, c'est non à la situation telle qu'elle est là. Voilà.
Alors, on ne le présente plus, Jean-Claude Kaufmann. Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages, beaucoup d'ouvrages justement sur le lien, sur la relation intime à l'autre, sur le couple. Et le dernier vient de sortir, ça s'appelle « Pas envie ce soir », c'est aux éditions « Les liens qui libèrent ». Et le sous-titre, évidemment, c'était « Le consentement », parce que c'est un sujet qui a été largement débattu, qui a été mise en avant après le phénomène MeToo. Jean-Claude Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce livre est vraiment très riche. Hein. Vous avez questionné beaucoup de femmes, qui ont témoigné. Alors, il y a des témoignages assez bouleversants, assez durs, assez difficiles. Et puis, il y a des témoignages plus légers, évidemment, comme toujours. Bon, ça, c'est votre travail de sociologue. Et alors, c'est bizarre, mais j'ai envie de commencer par un peu la conclusion du livre, où au fond, si les couples faisaient mieux l'amour, il y aurait peut-être moins de difficultés avec la question du consentement.
Oui, ben c'est tout un programme énorme qui est devant nous, mais quoi de plus agréable que d'essayer de mieux respecter l'autre, mieux l'écouter, mieux faire l'amour. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est complètement, vous êtes bien placé pour le savoir, hein, on a l'impression qu'on est complètement décontracté avec ces affaires de sexualité, qu'on en parle facilement, que tout le monde s'épanouit, et ce n'est pas le cas. Je commence à être un vieux chercheur. J'ai calculé, ça fait 40 ans que je fais des enquêtes sur le couple, j'avais jamais rencontré un tel poids du silence sur la question du non-désir, quoi. C'est très étrange. Autrefois, il y a très longtemps, le sexe c'était un peu honteux. Aujourd'hui, c'est l'absence de désir qui est absolument honteuse, absolument inavouable, qui pose des questions en soi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Or, c'est quelque chose qui est assez répandu, que l'on trouve, et il faut à tout prix arriver à en parler avec le partenaire, mais des fois aussi avec un ami, une amie, une confidente. Parce que moi, ça a été un petit bonheur dans l'enquête. Les gens, les témoins, surtout les femmes qui témoignaient, me disaient que ça leur faisait du bien, notamment du point de vue de la culpabilité. Elles avaient l'impression d'être seules dans cette situation, d'être un petit peu anormales.
La culpabilité de ne plus avoir de désir. Hein.
Cette culpabilité. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et surtout, alors, des fois, la baisse du désir, c'était le signal que, en fait, dans le couple, ça allait plus trop, quoi. C'était un peu l'indicateur, le déclencheur. Mais la plupart du temps, c'était pas ça. Elles disaient « j'aime ». Elles employaient le mot « amour ». J'aime mon compagnon, on forme une bonne équipe, c'est une phrase que j'ai entendue très souvent. On est bien ensemble, mais du point de vue du désir, éventuellement, dans mes fantasmes, etc., il n'y a pas de problème. Lors d'une rencontre qui n'avait pas été prévue avec un homme qui va devenir leur amant, il y a le retour du désir, la divine surprise, alors que l'on croyait qu'il était mort. Mais dans le couple qui s'installe dans la durée, il se passe quelque chose. Alors là, c'est assez net, hein, du côté des femmes. Parfois, c'est la femme qui a le plus de désir. Ça arrive aussi, il y a toujours ces décalages. Mais dans le rapport au couple, à l'organisation du couple, il y a un phénomène quand même qui est extrêmement net. Le désir des hommes qui reste relativement constant, quel que soit l'état de la relation conjugale, que ce soit amoureux, que ce soit plus routine, plan-plan, voire que ce soit agacé, tendu, un petit peu violent, le désir reste là. Et du côté des femmes, j'observe une diminution, alors des fois une petite diminution ou une chute, une mort du désir qui crée un malaise, un questionnement, qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas normal, c'est de ma faute. Si je fais pas un effort.
Tout simplement, Jean-Claude Kaufmann, tout simplement parce qu'on n'a pas encore suffisamment parlé de la sexualité féminine et du désir féminin.
Oui.
Et on a toujours opposé le désir féminin à la pulsion sexuelle masculine. Le désir féminin est assez secret et
oui.
c'est aux femmes d'apprendre à aller chercher leur désir d'avoir du plaisir. Mais le désir pour l'autre, au bout de quelques années de mariage, il est assez normal qu'il soit éteint, alors que chez l'homme, sa pulsion étant plus présente, il a l'impression que son désir
oui,
est toujours
mais
là.
Mais pour vous, c'est une évidence.
Mais je sais,
Mais c'est pas une évidence dans la société. Et c'est pas une évidence parce que on parle partout de, et ces femmes sont malheureuses, notamment dans l'impression que tout autour d'elles, chez les autres femmes, tout le monde s'éclate complètement à une jouissance maximum qui dure tout le temps.
On a une sorte comme ça de magazines féminins qui sont très fausses sur ce qu'est les femmes. Et on a aussi beaucoup de sexothérapeutes qui disent qu'il faut pas simuler, il faut pas se forcer. Et du coup, si on a plus ce désir qu'on a au creux du ventre quand on rencontre quelqu'un, on considère qu'on a plus de désir, donc il faut plus faire l'amour et on passe complètement à côté de sa sexualité. Mais tout ça, elle vous l'explique bien, hein, ces femmes, dans ce livre Pas envie ce soir, aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors vous parlez de cette fameuse zone grise, zones grises, hein, dont on parle beaucoup aussi. Qui, moi, m'agace aussi énormément, mais je vous laisse en parler, Jean-Claude Kaufmann.
Non, mais si, quand même, il y a de la zone grise et du gris dans la zone grise, parce que MeToo est extrêmement important à révéler des situations absolument choquantes, mais avec un slogan qui est très clair, et c'est bien qu'il soit clair, mais qui est un peu en décalage avec la réalité du couple dans la longue durée, c'est quand c'est non, c'est non. Mais ça, c'est très bien, hein, c'est extrêmement clair. Quand c'est non, c'est non. Quand j'ai pas de désir et que je reçois la proposition sexuelle comme une agression, mon nom est un message irrévocable. Bien, mais dans les relations sexuelles du couple installé, déjà, il y a souvent un peu plus de routine qu'on ne le dit. Alors, le mot routine est peut-être un petit peu trop fort, disons des chorégraphies, certains disent des scripts. On a pris l'habitude d'un certain nombre de manières, d'une danse, des gestes qui vont faire évoluer le désir. Donc, on parle souvent avec le corps. Une caresse va provoquer une réaction du corps. Des fois, la réaction, c'est une réaction de repli, un petit peu de refus, un mouvement, le corps qui se tourne, et c'est pas toujours reçu comme un message. S'il y a une caresse dans l'autre sens, eh bien, l'invitation est rendue par le corps, et en fait, d'une certaine manière, par le corps, on dit le consentement. Mais très souvent, par exemple, il y a très souvent les femmes qui disent volontairement garder une attitude complètement passive. Donc, j'ai pas envie, je me sens un peu en faute de pas avoir envie, je veux quand même lui faire plaisir, j'ai un petit peu peur que si je ne le fais pas, il aille voir ailleurs. Donc, fais don de mon corps, je fais pas, non seulement je fais pas d'effort, mais je lui envoie un message par ma passivité absolue. Or, le message n'est pas reçu. L'homme en face, il est un peu déçu, quoi. Il dit c'est un peu comme d'habitude, il y a un petit manque d'enthousiasme, je rêverais d'un petit peu mieux, mais c'est comme ça que ça se passe.
Vous écrivez d'ailleurs, même dans votre livre que certains hommes sont convaincus qu'il est légitime de forcer un peu, hein, et comme ils n'entendent pas de plainte par la suite.
On est les héritiers de siècles et de siècles où tous les rituels de séduction consistaient pour les hommes à vaincre des barrages et aux femmes à afficher des résistances.
On va revenir sur cette zone grise. Jean-Claude Hoffmann, restez avec nous. On donnera également la parole à Jean-Benoît Dumontex, qui aura peut-être aussi des questions ou des choses à nous dire. On se retrouve tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Jean-Benoît Dumontex, qui est avec nous, psychanalyste, on a évoqué le oui, le non, et on sait bien que c'est pas très facile. Alors évidemment, quand on parle de sexualité, c'est encore plus compliqué. C'est ce qui vous a donné envie, Jean-Claude Kaufmann, d'écrire ce livre, Pas envie ce soir, avec comme sous-titre Le consentement dans le couple, aux éditions Les Liens qui libèrent. Jean-Benoît Dumontex, vous avez envie de poser une question à Jean-Claude Kaufmann ou de réagir?
Non, je pensais, je rebondissais un petit peu dans ma tête sur la période du confinement, et j'avais entendu, et je crois que tout le monde sera d'accord avec ça, que c'est une période où il y a eu une chute du désir dans les couples. Ça a été vraiment très très compliqué de se rejoindre et de faire l'amour, pour différentes raisons, hein, parce que le contexte était très angoissant notamment. Et qu'en est-il du désir? C'est un peu la question que je voulais poser. Qu'est-ce que les couples disent du désir? Comment est-ce qu'ils se situent par rapport à ça? Est-ce qu'ils parlent du manque? Est-ce qu'ils parlent du fait de ne pas tout le temps être ensemble?
Il n'y a pas tellement de discussion sur le désir.
D'accord.
Il y a des gestuelle, il y a des chorégraphies qui se sont installées, il y a des mots doux, des petites déclarations d'amour, on pourrait dire, des termes, mais autour du désir, quelques couples ont une discussion plutôt technique. Alors parfois il y a des bribes de négociation, par exemple sur la fréquence. Mais c'est rudimentaire, il y a une petite comptabilité, on a fait depuis tant, petite discussion de marchand de tapis, mais qui va pas très loin, qui va pas creuser sur quel est l'état de mon désir, et l'état de mon désir par rapport aux manières de faire. Donc là aussi, il y a quelques couples qui discutent sur les manières de faire, la découverte du corps de l'autre et des sensations de l'autre. Mais moi, ce que j'ai été très surpris de découvrir, la pauvreté de l'échange, de la parole et la culpabilité par rapport à cette difficulté.
C'est-à-dire que parler de sexualité dans le couple, c'est encore terriblement tabou, en fait.
C'est tabou, et parler du désir encore plus, et du non-désir encore plus.
C'est parler de sexe, hein, parler de désir.
Non, parler de désir, c'est pas parler oui, mais ça va au-delà de la question de la sexualité, c'est pourquoi je ne t'aime plus. Parce que, pour beaucoup de femmes, elles disent « j'aime mon mari, mais je n'ai plus de désir pour lui ». Et pour les hommes qui sont face à ça, eux, pour eux, c'est une baisse de l'amour avec un grand A. Ils ont un petit peu
oui,
la nostalgie.
C'est bien pour ça que j'ai dit que c'est parler de sexualité, parce qu'on confond désir et amour. Ça n'a strictement rien à voir. Mais comme on met le mot amour avec le mot désir, donc on ne sait pas parler de sexualité dans le couple.
Oui, mais moi c'est très net, les hommes qui sont dans la situation de voir leur femme qui n'a plus, qui a moins de désir pour eux, ils ont la nostalgie un peu des premiers temps du couple où il y avait un élan groupé du sentiment et du désir. Le désir du corps de l'autre était une envolée en même temps, si je prends des grands mots,
bien sûr, un petit peu
romantique et sentimental, etc.
Je pense que les femmes aussi ont le regret de l'époque où elles avaient.
Oui, absolument, absolument. Absolument. Et ce qu'il faut surtout, c'est dédramatiser tout ça. C'est un petit peu logique, c'est normal, et on peut. Il y a une inventivité aussi des couples pour trouver des solutions. Alors j'ai un petit chapitre à la fin, c'est les petits arrangements. Il y a des fois des choses complètement étonnantes, bizarres. Mais il y a une inventivité des couples qui ne résout pas toujours complètement le problème de ce décalage des désirs, mais l'important, à la limite, on peut, pour une femme, se forcer un peu, pour l'homme, se retenir un peu, mais comme un cadeau, je dirais, fait à l'autre, en parlant. Alors que si on le fait dans la culpabilité, dans le silence, en disant je le fais, j'ai pas envie, mais c'est comme une corvée, il y a le mot corvée qui m'a été...
Vous racontez dans ce livre, Jean-Claude Kaufmann, vous racontez quand même des choses terribles, hein. Vous racontez par exemple cet homme qui est réveillé par une érection violente, ça m'arrive souvent le matin, dit-il, c'est très pénible, en plus je suis dans une sorte de rêve érotique, elle est là, douce, chaude, juste à côté. Ouais. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas envie? Je sais qu'elle n'est pas toujours très contente, que je la réveille, qu'elle grogne un peu, mais au final, je crois qu'elle aime bien ça.
Ça m'a été raconté souvent avec le terme petites attaques nocturnes, quoi. Alors il y a le mot petite pour dire bon, mais c'était pas un viol caractérisé.
C'est pas bien grave.
C'est
toutes les nuits, ça devient.
C'était très mal reçu. C'était très mal reçu, très pénible, être réveillé. Alors peut-être qu'on était dans un rêve et tout ça. Et là, c'est le cas typique où l'homme ne comprend pas qu'il a une attitude. Très agressive, un petit peu harceleuse d'une certaine manière. Et très souvent, il va y avoir un premier réflexe
du corps.
Parce que
ça l'arrange de ne pas comprendre, et comme la femme n'est pas suffisamment claire,
Et très souvent, il y a un premier message de la femme qui est un message par le corps, un mouvement de recul, ou une petite phrase, un bougonnement, etc. Puis après, elle se réveille et réfléchit, elle dit « Ah non, c'est pas possible », etc. Mais bon, il faut que je me force un petit peu. J'ai un petit peu peur que sinon que ça brise le couple. Donc c'est là, c'est très important qu'il y ait une expression un peu plus claire.
En tout cas, ce livre, Jean-Claude Kaufmann, excusez-moi de vous couper, mais on est en fin d'émission. Ce livre peut aider beaucoup de femmes qui se sentent un peu coupables, qui savent pas trop comment se positionner. Je pense qu'il peut aider les femmes et il peut aider les hommes à comprendre un petit peu mieux qu'une femme. C'est pas si clair que ça. Ça s'appelle Pas envie ce soir, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup Jean-Claude Kaufmann, à très bientôt. Je vous remercie aussi Jean-Benoît Dumontec, vous avez été formidable, vraiment, je trouve que vous savez dire les choses avec beaucoup de sensibilité et on vous retrouve très vite, Brigitte. Si vous le voulez bien, évidemment.
Avec grand plaisir.
Ce sera un plaisir partagé, voilà. Ce sera notre désir à tous les deux. Demain, qu'est-ce que je raconte ? C'est lundi qu'on retrouve Christophe Hague. Il y a eu beaucoup de peur durant ce confinement et on en parlera avec Christophe Hague. Comment prendre son destin en main sans ne se laisser envahir par toutes ces peurs, et notamment la peur de mourir, évidemment. Et puis tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Merci à tous. Et puis je vous rappelle cette phrase que j'ai dit tout à l'heure dans le Love Conseil, dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Je vous embrasse.